Beau jour, Marco, compte à rebours. Que ça fait du bien, compte à rebours, des histoires, des contes, des courtes et des longues. Alors, eh bien, la dernière fois, on avait fait un petit tour avec Nasreddin, hein, puisque après les mythes grecs, il fallait un peu changer d'ambiance, rigoler un peu aussi, ou davantage en tout cas. Et c'était Nasreddin. Eh bien, on va continuer, parce que j'en avais d'autres sous le coude que j'avais pas pu caser dans la dernière mission. Et voilà, ce qui est prêt doit être mangé, goûté, savouré. Et donc, on va repartir avec Nasreddin. Vous vous rappelez, la semaine dernière, justement, c'était une longue histoire où on avait connu Nasreddin, ambassadeur en Inde. Et on avait terminé, après cette très longue histoire, que je ne vais pas vous répéter, on avait terminé par une très courte. Mais justement, comme c'est une très courte, celle-là, je peux la répéter. Vous vous rappelez pas? C'était des aventures dans le désert. Nasreddin racontait un jour à des amis, lorsque j'étais dans le désert, je fis courir toute une tribu d'horribles bédouins assoiffés de sang.
Comment as-tu fait?
Facile. Je courais, tout simplement, et il courait après moi. Il a couru assez vite, je crois. De toute façon, il s'en tire toujours. Hein. C'est un peu la règle chez Nasreddin. Tenez, voilà ce qui lui est arrivé lorsqu'il a été confronté à des sages. Philosophes, logiciens et docteurs de la loi furent appelés à la cour pour faire subir un interrogatoire à Nasreddin. L'affaire était sérieuse. Nasreddin avait reconnu être allé de village en répétant « Les soi-disant sages ne sont que des ignorants et des esprits indécis et confus. » On l'accusa de saper la sécurité de l'État. « Tu peux parler le premier, » dit le roi. Que l'on apporte des plumes et du papier, dit Nasreddin. On apporta des plumes et du papier. Qu'on les distribue à 7 de ces savants, ordonna Nasreddin. Et maintenant que chacun d'eux écrive séparément sa réponse à cette question. Le pain, qu'est-ce que c'est? Chacun écrivit, puis on tendit les feuillets au roi, qui lut à haute voix. Le premier dit, le pain est un aliment. Le deuxième, c'est de la farine et de l'eau. Le troisième, un don de Dieu. Le quatrième, de la pâte cuite au four. Le cinquième, variable selon ce qu'on entend par pain. Le sixième, une substance nutritive. Le septième, personne ne sait vraiment. Alors Nasreddin prit la parole et dit, « Lorsqu'ils auront décidé ce qu'est le pain, alors ils pourront décider d'autres choses. Par exemple, si j'ai tort ou raison. » Peut-on s'en remettre à de tels gens du soin d'évaluer et de juger? Ne trouvez-vous pas singulier qu'ils ne puissent même pas se mettre d'accord sur la nature d'une chose qu'ils mangent tous les jours et qu'ils soient en même temps unanimes à m'accuser d'être un hérétique? Thank you. Eh oui, Nasreddin s'en tire toujours. Ou parfois, c'est un poisson qui le sauve. Nasreddin séjournait en Inde. Il passa un jour près d'une bâtisse à l'aspect étrange. À l'entrée, un ermite était assis, le regard perdu dans le vague, le visage calme. Nasreddin eut tout de suite envie de lui parler. « Un philosophe dévot de mon espèce, pensa-t-il, doit sûrement avoir quelques points communs avec ce saint homme. »« Je suis un yogi, » dit l'anachorète en réponse à la question de Nasreddin, « et j'ai voué ma vie au service des créatures vivantes, quelles qu'elles soient, et spécialement des oiseaux et des poissons. »« S'il te plaît, permets-moi de me joindre à toi, » dit Nasreddin. J'avais raison de penser que nous avions quelque chose en commun. Les sentiments que tu exprimes me touchent profondément, car un jour, vois-tu, un poisson m'a sauvé la vie. Surprenant, remarquable, s'exclama le yogi. Je serais ravi de t'admettre parmi nous. Cela fait bien longtemps que je me consacre à la cause des animaux, mais je n'ai jamais encore eu le privilège d'atteindre à une communion aussi intime avec eux. Il t'a sauvé la vie. C'est une confirmation éclatante de notre doctrine de l'interrelation de tout le royaume animal. C'est ainsi que Nasreddin s'installa près du yogi et passa plusieurs semaines à contempler son nombril et à prendre diverses postures plus curieuses les unes que les autres. Le yogi, à la fin, n'y tint plus. « Si tu penses, maintenant que nous nous connaissons mieux, que tu peux me communiquer ta merveilleuse expérience avec le poisson qui te sauva la vie, je me sentirai plus qu'honoré. » « Je n'en suis pas si sûr que toi, » dit Nasreddin, « maintenant que je connais mieux tes idées. » Mais le yogi le harcela, des larmes pleines les yeux. Il l'appela « maître », se frotta le front dans la poussière à ses pieds. « Très bien, » dit Nasreddin, « puisque tu insistes. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que tu sois prêt, comme tu dis, à recevoir la révélation que je vais te faire. Assurément !» Le poisson m'a sauvé la vie. J'étais sur le point de mourir de faim quand je l'ai pêché. J'ai eu grâce à lui de quoi manger pour 3 jours. Remarquez, Nasreddin, même sauvé, il réussit à se perdre lui-même. Regardez ce qui lui est arrivé lorsqu'après un long voyage, il s'est retrouvé dans la cohue fourmillante de Bagdad. Oh, Bagdad ! Jamais il n'avait vu aussi vaste cité et les foules qui se déversaient dans les rues l'étourdissaient. Je me demande comment les gens arrivent à ne pas se perdre de vue eux-mêmes et à se rappeler qui ils sont dans un endroit pareil, murmura-t-il d'un ton rêveur. Puis il pensa, je dois me rappeler de moi si je ne veux pas me perdre. Il entra précipitamment dans un caravansérail où on lui attribua un lit. Un farceur était assis sur le lit voisin. Nasreddin eut l'idée de faire la sieste, mais aussitôt un problème se posa. Comment se retrouver lui-même lorsqu'il se réveillerait? Il fit part de ses préoccupations à son voisin. « C'est bien simple. Voilà une vessie remplie d'air. Attache-la à ta jambe et va dormir. Quand tu te réveilleras, cherche l'homme au ballon. Ce sera toi. » excellente idée, convient Nasreddin. Deux heures plus tard, Nasreddin se réveille. Il cherche le ballon et le trouve attaché à la jambe de son voisin. C'est donc moi, pense-t-il. Mais soudain, pris d'une peur frénétique, il se met à bourrer l'autre de coups de poing. « Réveille-toi ! Il est arrivé quelque chose, comme je l'avais prévu, ton idée n'était pas bonne !» L'autre finit par ouvrir les yeux, demande à Nasreddin ce qui ne va pas, et Nasreddin montre alors le ballon du doigt. « À cause de cette vessie, je suis certain que tu es moi. Mais si tu es moi, alors, pour l'amour du ciel, qui suis-je ?» Qui suis-je ? La grande question que nous pose Nasreddin est aussi éveillé ou endormi ? Nasreddin s'aperçut un jour qu'on venait de construire tout près de chez lui une nouvelle route, un chara ou grand chemin. Il faut que je l'essaye, pensa-t-il. Cela faisait déjà un certain temps qu'il marchait sur ce grand chemin quand le sommeil le gagna. Il se coucha sur le côté, mais lorsqu'il se réveilla, il s'aperçut que son turban avait disparu. Quelqu'un lui l'avait volé. Le jour suivant, il se remit en route sur le même chemin, espérant trouver trace de son voleur. Il marcha ainsi pendant des heures sous le chaud soleil d'été jusqu'au moment où il décida de faire un petit somme. Il fut tiré de sa torpeur par un bruit de sabots de cheval et le tintement des grelots. Une troupe s'approchait, des soldats de la garde royale à la mine féroce qui escortait un prisonnier. Poussé par la curiosité, il les arrêta et leur demanda ce qui se passait. « Nous conduisons cet homme au billou, » répondit le capitaine. « C'est un garde chargé de la surveillance de la route et nous l'avons trouvé endormi. »« Ça me suffit, » dit Nasreddin. « Vous pouvez poursuivre votre chemin. Quiconque tombe endormi sur cette route perd ou son chapeau ou sa tête. Qui sait ce qu'on pourrait bien y perdre encore ?» Et c'est là, dit-on, l'origine du proverbe persan. « Quiconque tombe endormi sur la grande route perd ou son chapeau ou sa tête. » C'est alors que Nasreddin sentit sa femme le secouer. « Réveille-toi, réveille-toi !» lui dit-elle.
« Il ne manquait plus que ça, gémit Nasreddin. Ce que tu appelles éveillé, je l'appelle endormi. »
Néanmoins, même en ne sachant pas trop qui il est, s'il est éveillé ou endormi, Nasreddin ne perd jamais vraiment le nord. Il avait été invité au banquet que donnait le calife dans son palais de Bagdad. Sans doute une erreur d'aiguillage, une erreur d'invitation, mais Nasreddin se trouvait parmi les 3000 gourmets distingués qui avaient été invités par le calife. Ce festin était annuel et chaque année, le plat principal surpassait celui de l'année précédente. Le calife était renommé pour sa magnificence et sa réputation se devait d'être entretenue et de rester sans rival. Mais Nasreddin n'était pas venu pour autre chose que pour manger. Après une longue attente, les cérémonies préparatoires, les chants et les danses, d'innombrables plats en argent aux dimensions impressionnantes furent apportés. Sur chacun des plats prévus pour 5 convives, trônait un pan entier rôti, décoré d'un bec et d'ailes artificielles mais comestibles. Le plumage étincelant de pierres précieuses saupoudrées de sucre. Les gourmets qui partageaient la table de Nasreddin en eurent le souffle coupé de ravissement. Ce suprême chef-d'œuvre était un vrai régal pour les yeux. Personne ne semblait vouloir faire le moindre geste en direction de la nourriture. Mais Nasreddin mourait de faim. Brusquement, il se leva d'un bond en hurlant. « D'accord, d'accord, je reconnais que ce n'est pas ordinaire. Mais c'est probablement de la nourriture. Mangeons-le avant qu'il nous mange. » Mais pour terminer, eh bien la vérité de Nasreddin, ou bien la nôtre, vous verrez bien. Le roi décida qu'il était en son pouvoir, et même qu'il était de son devoir, d'obliger les gens à observer la vérité. Après tout, pourquoi pas? Il saurait bien les forcer à pratiquer la sincérité. Or, on pénétrait dans la ville par un pont. Il fit édifier une potence et le lendemain à l'aube, lorsqu'on ouvrit les portes de la cité, le capitaine de la garde avait déjà posté ses hommes de façon à contrôler toutes les entrées. L'avis suivant avait été placardé. Chacun sera interrogé. S'il dit la vérité, on le laissera entrer. S'il ment, il sera pendu. Nasreddin s'avança le premier.
« Où vas-tu ?»«
Je vais être pendu !» prononça lentement Nasreddin.
« Nous ne te croyons pas !»«
Très bien, si j'ai dit un mensonge, pendez-moi !»« Mais si nous te pendons pour avoir menti, tes paroles deviendront vérité !»«
Exact. Maintenant vous savez ce qu'est la vérité, votre vérité !»
Vo 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 la la la. Oh mia, oh bala, oh shad jime budhya. Ah, ishq te aatish nu hi barabar. Ishq te aatish nu hi barabar. ਓ ਵਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਾਓ ਤਿਖੇਰਾ ਹੋਲਾ ਆਤਿਸ਼ ਸਾੜੇ ਕੱਖ ਤੇ ਕਨੇਰਾ ਅਤ ਇਸ਼ਕ ਸਾੜੇ ਦਿਲ ਜੇਰਾ ਹੋਲਾ ਆਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੁਝਾਵੇ ਆਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੁਝਾਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜਾ ਔਖ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਆਖੇ ਪੀਰ ਫਰੀਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਡੇਰਾ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ ਛੇਤੀ ਆਮੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾਂ ਛੇਤੀ ਬੌੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾਂ ਛੇਤੀ ਆਮੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਛੇਤੀ ਆਮੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾਂ ਛੇਤੀ ਬੌੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ
Compte à rebours. C'est fini pour aujourd'hui. On a passé un bon moment avec Nasreddine. Et la prochaine fois, on verra où on partira. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Marco. Ciao.